Bonjour tout le monde, je suis tellement contente de vous retrouver à ce nouvel épisode du balado Ma santé pour la vie. Je suis votre hôte Eugénie Francoeur, coach ménopause et ex-journaliste. C'est la première fois que j'enregistre aussi en vidéo mon balado. Normalement, c'est seulement l'audio et je vais le déposer sur ma chaîne YouTube que j'ai débuté il n'y a pas longtemps. Alors, n'hésitez pas à aller aimer ma page, à vous abonner et à partager à vos amis, à vos sœurs, aux gens que vous connaissez qui pourraient besoin, qui sont en préménopause ou en ménopause et qui pourraient avoir besoin d'un petit coup de pouce. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Pour celles dont c'est la première fois que vous écoutez Ma santé pour la vie, ben, je vous souhaite la bienvenue, les autres aussi. Mon objectif à travers ce balado, c'est vraiment de vous informer, de vous inspirer, de vous donner des pistes, des idées, des trucs, des astuces pour mieux prendre soin de votre santé, de vous, pour comprendre comment ça fonctionne votre corps. C'est pas toujours évident de démêler tout ça. Mon travail de coach à moi, ben, c'est d'accompagner les femmes en ménopause et en périménopause afin de les soutenir, de les accompagner, de les aider à retrouver leur santé optimale. Parce que la ménopause, ce n'est pas toujours facile. Dieu merci, il existe des solutions, des choses qu'on peut faire pour aller mieux. Comme je l'ai dit souvent à mes clientes, la ménopause est inévitable, mais la souffrance, elle, est optionnelle. Alors, ce qu'on fait en coaching santé, en coaching ménopause, alors on travaille sur tout ce sur quoi on a du pouvoir, ça veut dire les facteurs de vie modifiables, l'alimentation, le sommeil, le repos, l'exercice, la gestion du stress, la gestion des douleurs, notre engagement social, le sens profond de notre vie aussi, parce que c'est important. Vous seriez surprise du nombre de femmes qui, on a pris soin des enfants, on a pris soin du conjoint, on a pris soin de la maison, on a pris soin des parents, du travail. Alors, on se sent parfois perdu en cours de route. On s'est perdu en cours de route. Et les femmes, souvent, ne savent plus ce qui les anime et ce qui les fait vibrer. Mais dans ce temps-là, c'est le temps d'aller chercher de l'aide. Alors, moi, je suis là pour vous retrouver, yay, votre plein bien-être, pour que vous puissiez vivre vraiment une vie qui vous ressemble, une vie alignée sur vos valeurs. Dans ma pratique de coaching, moi, j'offre mes services en privé. J'offre également des coachings de groupe pour les femmes en périménopause et ménopause. Et ben, pour en savoir plus, contactez-moi. Je vais laisser mes coordonnées en bas, tout en bas des notes de l'épisode. J'offre aussi mes services de coach ménopause au CMIE. Ça, c'est des cliniques spécialisées, entre autres, en hormonothérapie, ainsi qu'au Centre Axis, où j'ai eu le bonheur de contribuer avec mes collègues à mettre sur pied une super trajectoire de santé hormonale au féminin. J'ai une page Facebook aussi pour le groupe Les Ménopausées, sur laquelle j'offre des conseils, des inspirations, des coups de cœur. Alors, ben, gênez-vous pas, venez nous rejoindre. Puis là aussi, je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode juste en bas. Pour celles qui ne me connaissent pas, je vais me présenter brièvement. Bon, dans une ancienne vie, j'ai été journaliste. Maintenant, je suis rendue à 57 ans. Je suis moi-même en ménopause depuis bientôt 4 ans. Et dans mon cas, mais je suis plutôt chanceuse, ça se passe bien. Mais c'est pas parfait. Mon principal enjeu à moi, c'est mon sommeil qui est inégal. Des fois, ben, je dors comme un bébé, plusieurs nuits d'affilée. Puis, oups, je sais pas trop pourquoi. Après ça, je dors mal les nuits suivantes. Alors, il y a une partie qui demeure un peu mystérieuse là-dedans. Bon, on avance, puis ça va, mais ça va dans la bonne direction. Alors, une des raisons pour laquelle ça se passe bien pour moi, ma ménopause, c'est que je suis bien entourée. J'ai une belle équipe autour de moi et aussi je suis bien informée. Peut-être un peu trop par moment. Des fois, l'information me sort par les oreilles et j'ai besoin d'un peu de temps pour démêler tout ça et intégrer tout ça. Puis, ben, depuis des années aussi, moi, je suis mon propre laboratoire. J'aime beaucoup expérimenter. J'essaie tout ou presque, je m'informe le plus possible. Et c'est souvent le résultat de mes propres expériences sur moi-même que je partage. Pas tout le temps, mais souvent. J'essaie aussi, ben oui, d'être une cordonnière bien chaussée, ce qui veut dire que j'ai optimisé mes habitudes de vie et je continue. C'est pas fini, c'est, comme on dit, c'est du work in progress. C'est un chemin et non pas une destination. J'ai eu la chance aussi de débuter les hormones bioidentiques très tôt dès l'apparition de mes premiers symptômes de préménopause, ce qui a évité une dégringolade de symptômes. Comme bien souvent, ben, la prévention, c'est une bien bonne idée. Mais oui, je prends des hormones bioidentiques et vraiment, moi, je m'en passerai pas, puis pour plusieurs raisons. La première étant que les hormones sexuelles féminines, celles qui déclinent à la ménopause, sont responsables de centaines de fonctions physiologiques dans notre corps. Ça veut dire que lorsqu'on les garde optimales, ça permet à notre corps et à notre cerveau de continuer à bien fonctionner. Puis une fois que j'ai dit ça, ben les hormones, ça règle pas tout, loin de là. Ça règle bien des choses, mais il y a des femmes qui en prennent et que ça change pas tout. Alors, dans ce cas-là, ce que ça veut dire, c'est que le problème, c'est pas nécessairement les hormones. Pour plusieurs femmes, la différence, ça va vraiment être le jour et la nuit. Pour d'autres, si peu. Et il y a plein d'autres façons aussi de prendre soin de son équilibre hormonal. Et c'est un choix personnel. Et que vous optiez pour les hormones bioidentiques ou les suppléments dans un cas comme dans l'autre, ça ne pourra pas pallier ou compenser par de mauvaises habitudes de vie. Et là, je vais le répéter puis je vais insister là-dessus. Le fait de prendre des hormones ou des suppléments, ça ne va pas remplacer vos habitudes de vie. Ça ne va pas pallier. Hormones ou pas, il va falloir gérer son stress. C'est vraiment primordial à la ménopause parce que, oups, nos hormones ne se comportent plus de la même façon. Et de même que bien manger et bouger. Alors, les hormones et les suppléments ne vont pas remplacer ça. Alors, voilà, j'ai mis la table. On manquera pas de sujet à discuter. Et aujourd'hui, mais je vous propose un format différent de balado. Normalement, j'ai des invités, des spécialistes à qui je pose des questions, ce qui crée tout le temps des échanges riches et nourrissants, puis le fun. Mais à partir de maintenant, puis à peu près une fois par mois, je vais répondre à des questions que je me fais souvent poser par mes clients dans ma pratique de coaching. Soyez sans crainte, je vais aussi continuer à vous faire découvrir des experts de tous les domaines. Et pour cette première, dans cette nouvelle formule, j'ai envie de vous parler de sommeil. C'est le sujet qui revient le plus souvent et je pense que c'est à peu près à la base de tout le reste. Un sujet que je connais bien parce que, comme je vous le disais tantôt, c'est mon enjeu à moi. Et oui, je sais que j'ai récemment fait un balado sur le sommeil qui est vraiment super avec André Perrault. Vous irez l'écouter. C'est vrai, on apprend beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de l'aborder spécifiquement pour les femmes en ménopause parce que c'est la clé, puis c'est un enjeu, c'est un problème, c'est un symptôme qui revient tellement souvent et qui est vraiment en haut de la liste, super important. Parce que faire de l'insomnie, ça veut dire que il y a des impacts d'avoir des nuits interrompues, de façon régulière. Ça veut dire bien des choses. Ça veut dire qu'on a moins d'énergie, ça veut dire qu'on ressent plus les sueurs nocturnes ou les bouffées de chaleur, justement à cause de la fatigue. On est plus propice à prendre du poids, ben évidemment, c'est surtout autour du ventre. Ben, quand on dort mal ou pas assez, puis qu'on se fait souvent réveiller, ça veut dire aussi qu'on se sent plus irritable, instable, des belles montagnes russes, ouh, par en haut, par en bas. On peut aussi se sentir déprimé, le manque de sommeil peut amener des douleurs musculaires, la libido qui diminue, tous des symptômes de ménopause aussi, mais tout est dans tout, comme on dit souvent. Et ben, ça rend les relations plus difficiles aussi, parce que si on a de la misère à s'endurer, s'il y a bien des chances qu'on va avoir de la misère à endurer les autres et que les autres vont avoir envie de nous endurer aussi. Alors, avec la baisse de nos hormones reproductives vient souvent la baisse des autres hormones, dont la production de mélatonine et de l'hormone thyroïdienne. C'est une bien mauvaise nouvelle, parce que les hormones thyroïdiennes contrôlent bien des choses, dont la température, la tension artérielle, le battement cardiaque, la capacité de récupérer après avoir fait de l'exercice, le métabolisme. Alors, quand on dort mal, c'est vraiment, on entre dans un cercle vicieux, d'où l'importance de redoubler de vigilance, parce que plus on est fatigué, moins on a envie de s'occuper de sa santé et de maintenir ses saines habitudes de vie. Et moins on a de bonnes habitudes de vie, plus on est fatigué et plus on se laisse aller. Alors vraiment, c'est important de faire les petits pas pour prendre soin de soi. Alors, et les habitudes de vie, là, c'est important tout le temps. C'est mon travail. À la ménopause, c'est encore plus important. Je vous parlais des impacts du mauvais sommeil, mais le mauvais sommeil a aussi un impact sur tous les organes du corps, le cœur, le foie, le pancréas, le système digestif et sur le système nerveux central également. Et à noter que l'insomnie fait aussi augmenter l'inflammation. Alors, à part ça, quoi d'autre fait diminuer la production de mélatonine d'après vous? Ben, oui, il y a toutes les habitudes de vie qui ont une influence sur la qualité de notre sommeil. Ça inclut, donc, à part le sommeil, bon, mauvaise façon de s'alimenter, exposition aux lumières bleues le soir, les écrans, donc le niveau de cortisol qui est trop élevé, ça c'est l'hormone du stress chronique. Puis, ben, quand on est trop occupé, puis quand on a une vie trop stressée et stressante. Puis, manquer de sommeil, bon, je vous ai parlé des effets à court terme, là, ce qui se passe tout de suite, et à long terme, ben, manquer de sommeil, ça nous met plus à risque, ça augmente les risques d'Alzheimer et d'autres formes de démence. Ça augmente les risques d'obésité, d'hypertension, de diabète de type 2, maladie coronarienne, accidents vasculaires cérébraux, stress oxydatif, dysfonctionnement des mitochondries. Ça, c'est les petites cellules, les petites centrales qui produisent de l'énergie dans nos cellules. Ça crée aussi brouillard mental, problèmes de mémoire, saute d'humeur et ça a un impact également sur notre système immunitaire. Bref, le sommeil, ça sert à beaucoup de choses et entre autres, pas entre autres, mais aussi c'est pendant la nuit que notre système se nettoie via le système lymphatique, donc le système lymphatique et lymphatique pour le cerveau. Le sommeil sert aussi à réguler l'appétit et aide à réguler la glycémie également. C'est donc en urgence de prendre soin de son sommeil. Puis par où on commence? Ben, j'ai envie de vous proposer de commencer par ce qu'on devrait pas faire. Donc, premièrement, la caféine. Il y a des gens, j'étais avec une cliente un peu plus tôt aujourd'hui, puis elle fait partie des femmes qui peuvent prendre du café, du chocolat le soir, puis ça ne va pas l'empêcher de dormir. C'est pas mon cas. Moi, je ne veux pas de café, mais si je mange du chocolat noir le soir, il y a des chances que je passe une belle mauvaise nuit, puis ça prenne du temps avant de dormir. Donc, évitez la caféine. Puis là, jouez, apprenez à vous connaître. C'est ça qu'on fait en coaching. On apprend à savoir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas pour nous. Tu sais, la demi-vie de la caféine après qu'on l'ait bu, tu sais, ça peut rester dans le sang jusqu'à 8 heures. Il y en a qui sont un petit peu plus. Donc, évitez la caféine en après-midi. Je vous dirais à partir d'une heure, 2 heures, là. Mettez ça de côté. Le sucre aussi, trop de sucre, c'est sûr que ça favorise pas le sommeil. La régularité, l'horaire des repas, l'horaire de travail. Donc ça c'est ce qu'il faut. En fait, ça c'est ce qu'il faut. Donc on essaye d'avoir une régularité de ce côté-là. Et une autre chose qui est importante, mais c'est bouger. À éviter également les bruits excessifs, ronflements. Si vous avez un conjoint qui ronfle et qui vous empêche de dormir, c'est sûr que ça aide pas. Je l'ai dit tantôt, la surexposition à la lumière bleue, aux écrans le soir, c'est vraiment pas optimal pour le sommeil. Les toxines environnementales également. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux clés que j'ai envie de vous partager. Qui est vraiment primordial, le sommeil, là, c'est une question de lumière et de noirceur. Donc, la lumière, c'est important d'y être exposé très tôt le matin, enfin, très tôt le matin. Dès qu'on se lève, la lumière du jour, on va dehors, 10-15 minutes, pas de lunettes. Pourquoi? Parce que la lumière du jour va envoyer à notre cerveau le message, donc dans la rétine, c'est pour ça qu'il ne faut pas porter de lunettes, le message d'arrêter de produire de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, et va aussi envoyer le message que c'est temps de commencer à produire du cortisol, dont vous aurez besoin toute la journée. Puis le pic de cortisol, c'est entre 6 h et 10 h le matin. Alors, parmi les effets bénéfiques et importants du cortisol, lui aussi, c'est important de doser trop, c'est comme pas assez, donc il est anti-inflammatoire. Et il augmente l'énergie, puis il nous donne aussi plus de mémoire vive. Donc, comme je disais, La lumière, c'est super important pour équilibrer notre rythme circadien. Aussi, plus c'est en équilibre, plus nous, on va rester en équilibre. Donc, exposez vos yeux à la lumière du jour, idéalement dans l'heure qui suit votre réveil. Évitez aussi l'exposition à la lumière vive quelques heures avant le coucher. Ça veut dire que même si ce n'est pas des écrans, toutes les lumières trop lumineuses qui viennent d'en haut, selon les tamises, on essaie de favoriser les lumières qui viennent de par en dessous, justement pour envoyer à notre cerveau le temps que c'est le temps est venu de commencer à libérer de la mélatonine, parce que le soir, la mélatonine devrait monter. Je dis bien devrait parce que notre corps a besoin de noirceur pour produire de la mélatonine. Alors, si on est exposé à des écrans, trop de lumière, à un environnement urbain, ça va venir perturber la production de mélatonine. D'ailleurs, un des trucs que j'utilisais beaucoup lorsque je voyageais plus, avec les décalages horaires, c'est vraiment quand j'arrive quelque part, c'est m'assurer d'aller marcher, de rester dehors et en mouvement le plus longtemps possible, afin justement que mon cerveau capte le plus tôt possible qu'on a changé de fuseau horaire. Vous pouvez porter des lunettes aussi. Moi, le jour, j'utilise des lunettes comme celle-ci. Ça bloque la lumière bleue ça bloque la lumière bleue des écrans. Et le soir, vous pouvez porter des lunettes rouges, ça fait l'effet crépuscule, l'effet coucher de soleil. Et ça, c'est apaisant. Les premières fois, moi, que j'ai porté mes lunettes rouges, c'est comme je me suis mise à bâiller. Une demi-heure après, je bâillais et j'avais juste envie d'aller me coucher. Donc, il y a quelque chose de vraiment apaisant. OK, donc lumière, noirceur, c'est important. Deuxième chose, ben, on prend soin de son microbiote. Ben oui, le microbiote, on en parle partout, puis c'est important. Ça va dans les deux sens. On pourrait parler du microbiote et du sommeil, on pourrait parler du sommeil et du microbiote. 80% de la sérotonine se trouve dans nos intestins et la sérotonine, ben c'est le précurseur, c'est un des précurseurs de la mélatonine. Donc, plus notre microbiote est en santé et diversifié, mieux ce sera pour, meilleur sera l'impact sur notre sommeil, sur le court, moyen et long terme. Dans les autres choses à faire, ben, il y a bouger. L'exercice intense le soir, là, ça, c'est à éviter. Enfin, encore là, ça dépend des personnalités, mais règle générale, l'exercice plus intense, on garde ça pour matin ou jusqu'à 4-5 heures. Et le soir, enfin, on privilégie plutôt les mouvements plus lents, la gestion du stress. On intègre pratique de yoga, le yin yoga, le yoga nidra, le tai chi, le qigong, la méditation. Donc, ça, c'est toutes des choses qui vont vous aider à faire diminuer votre stress. Une bonne nuit de sommeil, ça se prépare. Comme disait André Perrault dans le balado que j'ai fait sur le sommeil, une bonne nuit de sommeil, ça se prépare la journée d'avant. Donc, c'est tout ce qu'on fait dans la journée précédente qui va aider justement le sommeil. J'en ai parlé brièvement tantôt, l'horaire des repas, la régularité, c'est important. Le corps digère, métabolise et absorbe mieux les aliments consommés plus tôt dans la journée, au moment où la sensibilité à l'insuline est plus élevée. L'hypoglycémie, pour certaines, aussi, ça peut être un problème durant la nuit, on se réveille puis on a faim. Donc, dans ce cas-là, ce que recommandent les experts, c'est une collation en soirée riche, quelque chose qui est riche en protéines et en bons gras. Justement pour prévenir les réveils nocturnes. Si vous sortez plus tard et vous avez des repas festifs, moi, ce que je fais, je traîne toujours mes enzymes sur moi. Alors, un ou deux comprimés d'enzymes, ça peut justement aider à soutenir la digestion lors de ces repas plus festifs et donc vous assurer que vous de bien dormir après. Idéalement, on arrête de manger après 7 heures. Donc, on se garde 3 heures entre notre dernier repas et le moment où on va aller au lit. Et on essaie de consommer le plus gros repas en début de journée et de manger un souper plus léger. Oui, je sais, ça va complètement à contre-courant de comment on vit. Mais bon, là, je vous fais des propositions. Puis moi, ce que je vous suggère, bien, essayez des choses, puis regardez ce qui fonctionne bien pour vous. Autre chose pour optimiser votre sommeil, la température de votre chambre et la noirceur. Idéalement, la température ambiante devrait être entre 18 et 20. Moi, personnellement, j'aime ça beaucoup plus froid. Moi, 14, 15, 16, là, vraiment, je dors super bien. Je sais que dans certains couples, ça peut être une source de conflit. Il y en a qui dorment mieux au chaud, il y en a qui dorment mieux au froid. Mais de façon métabolique, notre corps a besoin, dort mieux quand le corps a besoin de se refroidir. Important aussi que la chambre soit au noir. Si vous avez chaud, bon, quand la ménopause arrive, on a souvent chaud. On peut dormir avec ça se vend maintenant, des couvertures rafraîchissantes. Il y a aussi des couvre-matelas qui sont rafraîchissants à base d'eau. J'ai déjà essayé. C'était pas trop mon truc, mais bon, il y en a pour qui ça fonctionne très bien. On peut, moi, je préfère aussi dormir avec la fenêtre légèrement, la fenêtre de la chambre qui est légèrement ouverte. Ça dépend si vous vivez dans un endroit bruyant ou plutôt calme. Et dernièrement, dernier conseil, je sais que ça fait pas l'unanimité. Pour certaines personnes, ça va de soi. Pour d'autres, ça peut être conflictuel. Si vous pouvez et si vous avez un partenaire qui bouge trop, qui ronfle trop, puis qui s'ennuie à votre sommeil, ben osez faire chambre à part. Ça veut pas dire que vous allez vous aimer moins. Au contraire, ça veut dire que vous allez vous aimer plus. Parce que le sommeil, c'est pas un luxe, c'est une nécessité, c'est pas optionnel bien dormir. Donc, si vous avez un deuxième espace, allez, donnez-vous la chance, mettez les chances de votre bord pour que la nuit soit le mieux possible. Puis, comme je le disais, c'est vraiment pas un désaveu d'amour, au contraire. Mieux vous allez dormir, je peux vous garantir que plus vous allez vous sentir amoureuse et tout le monde va s'en porter mieux. Alors, voilà mes quelques conseils sur le sommeil. Puis, on a parlé des inconvénients de mal dormir, mais à quoi ça sert de bien dormir? Mais ça veut dire qu'on peut vivre la vie de nos rêves. On peut être la meilleure version de soi-même. Je sais que ça fait super cliché, mais c'est quand même vrai. Ça nous permet de poursuivre nos projets, des choses qui nous font du bien, ça nous permet d'avoir de l'énergie, ça nous permet de bien digérer, d'être de bonne humeur avec soi, avec les autres. Ça nous permet de voir loin, d'entreprendre des voyages, de vivre de belles relations amoureuses, amicales, au travail, avec les enfants, avec les amis. Et ben, c'est bien dormir, je peux vous confirmer que ça contribue aussi à être heureuse. En tout cas, mon bonheur à moi se porte mieux quand je dors mieux. Alors voilà, j'espère que tout ça vous aide. J'aime toujours vous lire. Là, je vous ai dit plein de choses, là. De tout ce que je vous ai dit, est-ce qu'il y a une chose en particulier que vous retenez? Essayez pas de tout retenir. Vous pouvez réécouter, il n'y a pas de problème. Essayez pas de tout faire, de tout changer d'un coup. L'idée, c'est vraiment toujours la théorie du PPPP, les 4 P, le plus petit pas possible. Donc, ce soir, aujourd'hui, demain, c'est quoi le plus petit pas que vous pourriez faire pour essayer de mieux dormir. Moi, j'aime toujours vous lire, alors laissez-moi un commentaire, posez-moi des questions, faites-moi des suggestions de sujets que vous aimeriez que je parle. Donc, c'est vraiment, on fait ça ensemble, hein, un podcast, puis balado, s'il n'y a personne qui écoute, s'il n'y a pas de rétroaction, c'est moins le fun. Donc, l'idée, c'est vraiment j'aime vous lire, puis j'aime savoir ce qui est là pour vous. Puis ben, comme je le disais au tout début, partagez à vos amis, aussi à vos soeurs, vos belles-soeurs, vos collègues, si vous pensez que ça peut faire du bien à quelqu'un. Et ben, si vous pensez que vous avez besoin d'aide, ben, demandez-en. Vous pouvez, si vous voulez plus d'infos, vous pouvez me joindre au 514-913-1947. C'est le 514-913-1947. Je suis au Canada, donc le code du pays, c'est le 1. Mon adresse courriel, c'est eugénie.franqueur@gmail.com. Alors voilà, je vais toutes laisser ces infos-là dans les notes de l'épisode. Sur ça, ben, je vous souhaite une belle journée et une bonne nuit et surtout du sommeil réparateur. Je me le souhaite aussi. Bye, à bientôt!